des réalités. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Michael, aujourd'hui notre émission est sur Jabotinsky.
Oui, Vladimir Zev Jabotinsky.
Que peux-tu nous dire sur Jabotinsky ?
Personnellement, je ne l'ai pas connu. Mais je le regrette beaucoup parce que de toutes les personnalités, je crois, du monde sioniste, c'est peut-être celui qui est, je ne dirais pas peut-être le plus attrayant. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma jeunesse. Parce que justement, c'était une voie un peu différente dans le sionisme qui, pour moi, était le continuateur de Herzl dans la vision d'un sionisme politique. Et puis aussi dans la vision d'un sioniste, je dirais, décomplexé, qui n'hésitait pas à parler de la force, de la puissance, de la nécessité d'avoir une armée, de la nécessité d'avoir un État fort pour pouvoir, je dirais, assurer la continuité de l'existence du peuple juif. Et puis c'est quelqu'un qui a eu aussi un destin assez un peu tragique, parce que d'une certaine façon... Il était l'inspirateur de ce qu'on appelle la droite israélienne. Mais comme au début de l'État d'Israël, la droite n'était pas majoritaire, elle faisait partie de la minorité, elle est arrivée au pouvoir qu'en 1977. Donc pendant toutes les premières années de l'État d'Israël, la droite était un petit peu marginalisée. Et notamment, la dépouille mortelle de Jabotinsky n'a pas été... Il avait laissé dans son testament des instructions disant qu'il ne voulait être enterré en Israël. Il est mort aux États-Unis en 1940. Il ne voulait être enterré en Israël que sur décision du gouvernement d'État d'Israël.
D'accord.
Et il a fallu attendre, je dirais, le départ de Ben-Gourion, qui s'est toujours opposé à ce que Jabotinsky soit enterré en Israël. Et donc, cette décision n'est pas passée au gouvernement jusqu'en 1964, je crois.
Combien de temps après sa mort ?
Voilà, 24 ans après sa mort. Donc, quelque part, il a fallu attendre une décision, pas d'un gouvernement de droite, d'ailleurs, du gouvernement de Lévi Eshkol, pour que la dépouille de Jabotinsky soit transférée en Israël. Alors, Jabotinsky, c'est un personnage assez différent de beaucoup d'autres dirigeants sionistes.
De quelle manière ?
Parce que c'est quelqu'un qui est né en 1880 à Odessa. Donc il fait partie de cette commune. On a déjà évoqué à propos des Chovev Etzion et des Amants de Sion et de d'Achadam. On a déjà parlé de ce creuset de la culture juive que représentait Odessa. Mais en fait, Jabotinsky a eu une éducation russe, d'une certaine façon, et pas, même s'il était d'une famille plutôt traditionnaliste, juive, mais il est allé au lycée russe, et il a fait partie, il y avait un numerus clausus à l'époque, alors il y a un mythe, je ne sais pas s'il est exact, on dit qu'en fait, il était de la même génération que Trotsky,
d'accord,
et que c'était un brillant élève, mais il n'y avait qu'une seule place au lycée pour un juif, et donc ce serait... Jabotinsky qui aurait eu la place et Trotsky, et du coup Trotsky est devenu révolutionnaire. Voilà. Mais bon, c'est un mythe qui sur le plan historique tient, et on sait qu'il y a eu des contacts entre Jabotinsky et Trotsky, justement par l'intermédiaire d'un ami commun. Jabotinsky est quelqu'un qui était pétri de culture russe, et qui donc lorsqu'il quitte Odessa, lorsqu'il va en Europe, notamment il a vécu à Paris dans les années 20, il était extrêmement connu dans les milieux des exilés russes qui avaient quitté la Russie après la révolution bolchevique. Il écrivait en russe, il écrivait des feuilletons, il écrivait des romans. C'était un traducteur hors pair dans plusieurs langues. Il avait fait des études également après en Italie, donc il parlait couramment plusieurs langues. Notamment le français, le yiddish, bien évidemment, le russe, l'hébreu, l'italien. Et donc c'est quelqu'un qui avait une très grande culture. Et d'ailleurs, dans un texte dans les mémoires de Nina Berberova, que tu connais, elle évoque Jabotinsky, elle disait « Quel dommage qu'il est sioniste, il aurait pu devenir un grand écrivain russe ». Et c'est vrai qu'il a écrit des romans qui n'ont pas toujours à voir avec ni le judaïsme, ni le sionisme, mais à partir du moment, je dirais, où il est tombé dans le bain du sionisme, il est devenu, c'était un passionné. Et donc, il s'est engagé à fond et il a vraiment consacré, je dirais, toute sa vie, dès le deuxième ou troisième congrès sioniste, auquel est participé comme représentant, justement, de la communauté d'Odessa. Il est devenu un passionné et donc il a sillonné l'Europe. Il a vécu aussi bien en Italie, à Istanbul. Et il a fini sa vie, justement, puis il faisait des voyages partout. C'était un orateur hors pair qui avait un très grand don rhétorique. Mmh. Et donc, il avait la possibilité d'haranguer les foules et de convaincre des termes. Et en même temps, c'était quelqu'un qui avait des idées assez originales dans beaucoup de domaines.
Je te coupe un instant. Tu dis qu'il était vraiment imprégné de culture russe. Ça veut dire qu'il était moins imprégné de culture juive, traditionnelle juive, que les autres membres des Amants de Sion ?
Oui, il adorait l'hébreu. Mais effectivement, ce n'était pas quelqu'un qui venait d'un milieu, je dirais, religieux orthodoxe. C'était des gens d'une famille plutôt traditionnaliste. Bien évidemment, il connaissait l'hébreu, bien évidemment, il avait lu la Bible, c'était un juif comme il y en avait beaucoup à son époque, mais il était beaucoup plus, je dirais, féru de culture européenne que de culture juive. Et donc, il avait lu tous les grands auteurs et tous les grands poètes. Il a traduit notamment Edgar Poe, il a traduit des textes qui étaient peu connus, je dirais, dans les communautés juives, mais lui, il connaissait très très bien la culture italienne, et notamment dans toutes ses... Je dirais, sa vision politique a été extrêmement inspirée des mouvements, je dirais, d'émancipation nationale européen.
D'accord.
Notamment, c'était l'époque, la fameuse grande époque de la création, au fond, de ce qu'on appelle l'unité nationale italienne. Mm-hmm. Et donc, il a été extrêmement impressionné par la façon dont la nation italienne, l'Italie, c'était un certain nombre de régions, de comtés qui étaient assez indépendantes. Et un jour, il y a eu Garibaldi et Mazzini qui ont fait de tous ces petites régions qui étaient assez indépendantes, ils ont réussi à créer ce qu'on appelle une unité nationale. Et donc la façon de forger l'unité nationale, ça l'a beaucoup impressionné.
D'accord.
Et donc il s'est beaucoup inspiré de cette pensée-là. Également d'autres penseurs, je dirais, de politique moderne, comme Jelinek, Renner et d'autres qui sont peut-être moins connus, mais qui ont rédigé des textes sur la notion de nation, comme par exemple Ernest Renan et d'autres. Et donc, il était un grand lecteur, je dirais, de la pensée politique internationale et pas seulement juive. Alors, Jabotinsky a tout de suite compris quelque chose qui est fondamental, je dirais, pour la compréhension du sionisme. C'est que le peuple juif est avant tout une nation et que la dimension religieuse, même si elle existe en tant que telle, n'est pas suffisante, elle est réductrice par rapport à la notion de peuple et de nation. Et donc, il fallait, quelque part, recréer ou reforger ou redéfinir ce qu'était la nation juive.
D'accord.
Et donc, il pensait que sans ce sentiment national, et comment créer ce sentiment national ? Par l'éducation, par les mouvements de jeunesse, par toutes sortes de symboles et de... Et donc, tout cela a participé de son idée, je dirais, de pour créer un État juif, il faut un sentiment national. Mm-hmm. Donc, il ne suffit pas d'avoir, je dirais, des visées uniquement territoriales. Il faut avoir un sentiment national.
Il rejoint un peu la pensée d'Arad Ha'am, nous avons parlé justement de cette vision-là, cette vision de créer une culture juive. Qu'est-ce qu'être
non,
une nation juive ?
D'accord. Non, justement, c'est plutôt l'inverse par rapport à Arad Ha'am. Parce qu'il dit, si les Juifs ne retrouvent pas ce qu'il appelle le sentiment national, c'est-à-dire leur fierté à être juif, il dit la culture viendra après. Mais d'abord, il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils
d'accord.
sont.
D'accord.
Et donc, c'est une des expressions de très célèbre de Jabotinsky. Il disait « Yehudi ben Meler », c'est-à-dire « chaque juif est fils de prince ».
Mais qu'est-ce qu'être juif pour lui, justement ?
Être juif, c'est d'abord retrouver sa propre noblesse.
D'accord.
C'est-à-dire sa fierté, sa dignité. Et à partir du moment où on croit à cette noblesse, on peut être prêt à mourir, à se battre, à se défendre. Et ensuite, bien évidemment, il va falloir une culture. Ce n'est pas qu'il refuse la culture, mais c'est une question d'ordre de priorité.
Donc ça veut dire que pour lui, la nation juive passe obligatoirement par la terre. Par la nation
comme d'un point de vue. Il y a une phrase de Jabotinsky qui dit, à un moment, « Je suis un bras à la recherche d'une tête ».
D'accord.
Il dit d'abord, on a le sentiment de vouloir faire quelque chose. Il faut d'abord vouloir faire, après, les idées viendront.
Mais faire quoi, justement ?
Alors, justement, ce sens de... Il y avait un côté quand même assez intéressant dans la conception, je dirais, de Jabotinsky, du judaïsme, c'est que... il y avait un concept qui était très important pour lui, qui se dit en hébreu « hadar ». Mm-hmm. Alors « hadar », ça pourrait se traduire par « la beauté ». Moi, je crois que c'est plutôt le maintien, une espèce de se tenir droit. Donc cette droiture, ça, c'est fondamental. Il faut d'abord se tenir, comme on dit sur ses jambes, se tenir droit. Une fois qu'on se tient droit, on peut regarder devant, et donc on peut à ce moment-là faire, c'est-à-dire créer un État, être une nation, être un peuple, avoir une culture, etc. Mais si on ne se tient pas droit parce qu'on a honte d'être de ce qu'on est, ou parce qu'on est persécuté, ou parce qu'on est humilié ou opprimé, si on ne se tient pas debout, on ne pourra pas avoir de culture. Ça ne sert à rien d'avoir une culture si on n'est pas capable de se tenir sur ses pieds. Et ça, je crois que c'est quelque chose, pour moi, extrêmement important, parce que, encore une fois, il y a des générations de Juifs qui ont été persécutés, qui ont été humiliés, qui étaient... dans une espèce de passivité. Donc, quelque part, ce courage de se tenir debout, ça, c'était extrêmement important. Et je crois que lorsqu'il crée le mouvement de Bétard, dans les années 20, cette éducation, c'est d'abord la tenue. Donc, il était extrêmement exigeant sur... contrairement, par exemple, aux autres mouvements sionistes, Haloutzik, où on était un petit peu débraillé comme ça, où on s'attachait moins à cette question de l'uniforme, des symboles, du drapeau. Pour lui, tous ces signes extérieurs de fierté, tous ces symboles qui nous permettent justement de nous tenir droit, ça, c'était le point de départ.
Je comprends.
Et à partir du moment où un enfant se tient debout, voilà, on lui enseigne les règles de la bienséance, de la politesse, de la droiture. Après, on pourra lui donner éventuellement le contenu, les valeurs, etc. Et donc, pour lui, c'était le point de départ. Si on n'a pas cette fierté première, cette noblesse première, ce qu'il appelle ce hadar, ce sens de la beauté, d'une certaine façon, de la maintenue, de la tenue, du maintien, on peut rien, on sera qu'un sous-homme. Donc cette idée-là, elle est fondamentale. Encore une fois, il y a des inspirations de son siècle ou de son époque. C'est l'époque du surhomme, c'est l'époque de la pensée de Nietzsche, quelque part. On dit, voilà, l'homme, c'est quelqu'un qui se tient debout, contrairement à ceux qui sont les... Voilà, c'est les forts contre les faibles. Mmh. Donc, pour lui, la force du judaïsme, c'est important. C'est une force qui ne doit pas seulement être une force spirituelle. Elle peut être aussi une force physique, parce que, malheureusement, si on n'a pas la force physique, on n'aura pas la force spirituelle. Et il faut la force spirituelle aussi pour avoir la force physique. Alors, voilà, je lis un petit texte pour bien saisir ce point. « Notre mal le plus profond, le mépris de nous-mêmes. Et notre besoin le plus impérieux, la restauration de notre dignité, exige que le fondement de notre enseignement populaire soit la connaissance de nous-mêmes. C'est ainsi que font par toute la terre, toutes les nations saines, toute personnalité normale. Connais-toi toi-même, disait Socrate. » Voilà, ça c'est je dirais, la nécessité de se voir comme quelqu'un qui est noble, d'avoir sa propre noblesse, je dirais, permettra aux Juifs de revenir dans l'histoire et de faire sa propre histoire. Et de ne plus de se laisser dicter son histoire par les peuples extérieurs. Mmh. Donc ça, je crois que sur l'idée de l'indépendance, du sentiment national, c'est l'idée fondamentale du sionisme jabotinskien, comme on dit, qui ensuite s'est appelé le sionisme révisionniste, puisqu'il était en opposition au sionisme traditionnel. Donc c'était une révision du sionisme, c'est pas dans le sens où on l'utilise à propos d'autres idées. Donc pour lui, il y avait un terme qu'il utilisait qui était le monisme. C'est-à-dire on ne peut pas avoir plusieurs idéologies, on ne peut pas avoir plusieurs conceptions ou plusieurs philosophies. Donc on est juif. Donc c'est l'idée centrale. Tout doit être centré sur cette idée qui doit être unique. Donc l'unicité de notre judaïsme, c'est la base de toute pensée. Mmh. Et à partir de là, on peut être libéral, on peut être socialiste. Une phrase que disait Jabotinsky souvent, il disait, moi, je descends à la station État juif. C'est-à-dire le jour où l'État juif sera créé, eh ben les gens ils décideront s'ils veulent être, s'ils veulent une société socialiste, s'ils veulent une société libérale, capitaliste ou autre chose. Dis-moi, je n'ai pas de projet. Mon idée, c'est créer cet État. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Donc pour lui, c'est vraiment, il y a une idée et on ne peut pas avoir plusieurs idées en même temps. C'est-à-dire, par exemple, il s'opposait à l'idée des sionistes socialistes qui pensaient qu'on pouvait à la fois créer un État et en même temps forger une société égalitaire et en même temps créer une société religieuse, par exemple. Et on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Il faut se centrer sur un objectif, et l'objectif, c'est ce qu'il appelle l'État juif. Et donc, il invente ce concept qui est utilisé beaucoup en hébreu, qu'on dit en hébreu « mamlartiyut ». On pourrait traduire ça en français, avec un néologisme un peu malheureux, « l'étatité ».
D'accord.
Le sens de l'État.
D'accord.
Hein, ce qu'on dit en France, on appelle ça le sens de l'État. Pour lui, les Juifs ont perdu dans leur histoire, à cause des circonstances de la diaspora, et la vie en diaspora leur a fait perdre le sens de l'État. Ils ne savent plus ce qu'est ce sens de l'État. Il faut reconstruire ce sens de l'État. Une fois qu'ils auront ce sens de l'État, ils comprendront que ce sens de l'État comporte à la fois des contenus, une culture, mais aussi des sacrifices, c'est-à-dire aussi des choses à faire pour que cela arrive. Donc il faut payer un prix pour arriver à cette vision, ce sens de l'État, ce que j'appelle cette étatité, cette mamlartiyut. Et donc pour lui, c'est le seul critère, je dirais, ce n'est pas que l'État soit une fin en soi, comme dans la conception hegelienne par exemple, mais c'est un instrument qui permet d'unir, de rassembler la nation. Et donc, s'il n'y a pas d'État, forcément, on est dispersé, et donc, on n'arrive pas à faire ce rassemblement de la nation. Et donc, le peuple juif a réussi une chose dans son histoire, c'est à rester une nation, mais évidemment, comme elle n'avait pas l'État, n'avait pas cet outil central, elle a donc substitué à cet État d'autres moyens de substituer entre nations. Et donc, par exemple, la religion, et toutes sortes d'autres, ce qu'il appelle d'autres artifices, ont permis à la nation de subsister. Alors on a dit, voilà, il faut étudier, il faut garder un certain nombre d'habitudes, de coutumes, etc. Parce que, comme nous n'avons pas d'État, eh bien, on prend des substituts. Donc il dit, aujourd'hui, dans la situation de l'époque moderne, il faut retrouver le sens de l'État et ne plus se contenter de substituts. Donc ça, c'est, je crois, le but de l'État. Ça n'est pas, encore une fois, une vision où l'État va dominer. L'État, c'est un moyen pour assurer la pérennité du peuple juif.
Tu disais tout à l'heure qu'ensuite, il parle de sionisme révisionniste. Donc il est en opposition avec les autres sionistes. Est-ce que dès le départ, il était en opposition ?
Il a été en opposition assez rapidement.
D'accord.
C'est-à-dire que il a été d'abord dans une première opposition au moment de. Il a été, je crois que le premier congrès sioniste, ou peut-être le deuxième, je ne suis pas sûr, où il a participé, c'était le congrès sur l'Ouganda.
D'accord.
Et donc, il avait une très grande sympathie pour Herzl, qu'il admirait beaucoup. Et sur la question de l'Ouganda, il était évident pour lui qu'on ne pouvait pas accepter l'Ouganda comme solution, même temporaire. Il fallait rester centré sur l'objectif du retour en terre d'Israël. Et puis après, il s'est toujours opposé à ce qu'on appelait un peu le sionisme synthétique, c'est-à-dire à des compromis. Et donc il a toujours estimé qu'il fallait exiger, être clair sur les objectifs et ne pas... Par exemple, il y avait une discussion de savoir est-ce qu'il faut dire dès le départ que nous voulons créer un État. C'est pour ça d'ailleurs que dans la déclaration Balfour, on ne dit pas État juif, on dit foyer juif.
D'accord.
Parce que...
Ah, ça vient des sionismes, ça.
Voilà, c'est d'accord. Des sionistes qui au départ disaient, si on dit qu'on veut un État et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le créer, donc ne disons pas pour l'instant État. Disons, foyer, c'est la base ou les fondements de ce qui pourrait devenir un État. Donc, pendant très longtemps, le mouvement sioniste officiel n'a pas prononcé le mot, encore une fois, c'était un objectif lointain. Voilà, on ne parle pas de créer un État demain. Et donc, il faut créer d'abord une société, ce qu'ils appelaient le Yishuv, c'est-à-dire une société juive en Palestine. Donc lui, dès le départ, comme on dit, il parlait de façon directe. Mm-hmm. Il disait, nous devons dire de façon claire et nette, nous voulons créer un État. Et sur l'ensemble du territoire d'Eretz Israël, mm-hmm. c'est-à-dire les deux rives du Jourdain, c'est-à-dire tout ce qui, historiquement, fait partie de la patrie historique et ancestrale du peuple juif. Dit, on n'a pas à cacher nos intentions. Après, si demain, il faut faire des compromis ou pas, c'est une autre affaire, mais d'accord. nos intentions doivent être clairement formulées, clairement définies, et il n'y a pas à se cacher. Donc pour lui, c'était direct. Et puis, le pendant de ça, c'est que si on dit qu'on veut avoir un État, il faut être prêt à se battre pour avoir cet État. Donc il faut participer à la libération de la Palestine. C'est la raison pour laquelle une des premières actions connues de Jabotinsky, ça a été de demander, dès le début de la Première Guerre mondiale, la création d'une armée juive ou d'une unité juive qui va combattre pour la libération de la Palestine. Mmh. Parce que si on n'est pas prêt à se battre pour défendre ses propres intérêts et créer son État, on ne l'aura pas. Donc il dit, voilà, c'est la loi des nations, et c'est ainsi qu'il a été à l'origine de la création des deux premières unités juives pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et nous allons en reparler après.
Absolument, parce que nous allons faire une petite pause musicale.
הוא קנה אותם בזול, עיניים מלאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים. האכיל אותם מרק, שיקי הוא שתק, הוא לקח אותם לסרט כל יומיים. אבל יום אחד הוא קרא, עדיין מנונה, חיפש למגפיים בארון. ובמקום שאין היו, רק ארבעים נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. שנעליים קונים מהר וגרביים לא חסר אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט קשה מאוד להשיג אותם כעת תגדי תגדי שאל עובר משאב אם ראה את מגפיו רק מתוך נימוס נשמיט את התשובה ברוך טל בכפר ועיר במצב מאוד שביר הדיפרסיה במוחו השתוללה כשפנה חסר עונים למדור חיפוש קרובי התרגז על הפקי בקבלה נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט קשה מאוד להשיג אותם כעת שם מילת המניעה הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים בזרועות בחור אחר ראה אותה לא ידע הוא מה לעשות אם לצחוק או רק לבכות מה שלא יהיה הוציא את המטפחת בבטע הוא לצד לקח ושלף את האקלח שירה לך כדור אחד בפחת נעליים גרביים לא חסר אף מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט קשה מאוד להשיג אותם חיים Saúde אז ועד היום, גם בגשם, גם בחון, הן תפורות אצלו ישר לעצמות. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותן כעת. ואם אתה לא מאמין תשאל
Michael, qu'arrive-t-il ensuite à Jabotinsky dans son aventure avec le sionisme ?
Oh, il lui arrive beaucoup de choses, mais disons que ce qui était assez particulier de Jabotinsky, c'est qu'il menait en fait deux carrières en même temps. Mm-hmm. Je veux dire, à la fois une carrière littéraire, continuer à écrire, d'accord, à publier. Les œuvres complètes de Jabotinsky, c'est pas mal de volumes. Mm-hmm. Des feuilletons, des articles, des romans. Des traductions.
Qui beaucoup, n'avaient rien à voir avec le sionisme ?
Beaucoup de traductions, oui, qui n'avaient rien à voir avec le sionisme.
Ses autres et, ouvrages également ?
Oui, certains, surtout dans les traductions d'ailleurs. Il a écrit un roman sur Samson, qui est un roman qui a été d'ailleurs traduit en français il y a quelques années. Mais surtout, son idée, c'était de créer, je dirais, un peu une bibliothèque juive, enfin une bibliothèque hébraïque de grandes œuvres. Et donc, il a créé, dès les premières années, disons, lorsqu'il a quitté l'Ukraine, il est parti s'installer à Vienne. Et puis, à partir de 1906, il a commencé à publier, à écrire, et même à créer une maison d'édition.
D'accord.
Et donc, dans cette maison d'édition, l'idée, c'était de traduire en hébreu tous les grands textes classiques de la littérature, donc le Spartacus, Edmond Rostand, et c'est lui qui faisait les traductions. Mmh. En parallèle de ses activités sionistes, le monde sioniste il y a eu un changement dans le monde sioniste au moment où l'Empire ottoman, il y a eu une révolution, ce qu'on appelait la révolution des jeunes Turcs. Et donc l'Empire ottoman s'est, je dirais, laïcisé. On est passé à une espèce d'islam, enfin en tout cas un empire turc qui est devenu beaucoup plus laïque qu'il ne l'était à partir de 1908. Et donc, comme le mouvement sioniste voulait développer notamment toute sa partie, je dirais, propagande et information, on a décidé de transférer les bureaux du journal de l'organisation sioniste à Istanbul. Voilà, ce qui permettait à la fois d'avoir une fenêtre sur l'Europe, mais aussi sur la Palestine, d'accord, donc sur Eretz Israël. Et Jabotinsky est donc parti s'installer, puisque c'est lui qui, entre autres, était un des rédacteurs de ces publications du mouvement sioniste, cette maison d'édition qui publiait à la fois un journal, mais aussi des livres. Et donc, il a vécu un certain temps à Istanbul. Voilà, donc il a continué ses activités entre 1906 jusqu'à 1914, en voyageant beaucoup et en habitant, à la fois en faisant des études, en partie en Italie, mais ensuite il était donc à Istanbul.
D'accord.
Et au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà le directeur de cette fameuse maison d'édition, qui publie, tous les canons de la littérature et qui les publie en hébreu. D'ailleurs, en hébreu, c'est assez intéressant parce qu'il y avait également des livres d'éducation. Et notamment, par exemple, Jabotinsky a écrit une méthode d'apprentissage de l'hébreu,
d'accord,
dans laquelle il propose, d'une façon assez intéressante, d'écrire dans un premier temps l'hébreu en lettres latines.
D'accord.
Parce qu'il dit tous les diaspora savent lire les lettres latines et donc ce sera plus facile pour leur apprendre l'hébreu si au départ on commence par les lettres latines. Bon, évidemment cette méthode n'a pas été retenue, mais ça veut dire de temps en temps voilà, il proposait un certain nombre d'idées. Le véritable tournant, je dirais, dans l'action de Jabotinsky, c'est la Première Guerre mondiale. Donc au début de cette Première Guerre mondiale, il publie déjà plusieurs articles, notamment dans une revue qui était écrite en russe, mais qui, qui était destiné aux juifs, au public juif, et également à Paris, où il appelle à la création d'un bataillon juif.
D'accord.
Pour participer à la libération de la Palestine. Alors évidemment, les forces alliées, et notamment les Anglais, ne sont pas extrêmement enthousiastes.
J'imagine.
D'avoir justement des soldats juifs, parce qu'ils comprennent aussi le message. Si les gens participent à la guerre, une fois la guerre terminée, ils vont vouloir venir avec des revendications et vont vouloir réclamer, je dirais, le prix du sang qu'ils ont versé. Donc au départ, on leur dit, vous savez, on n'a pas vraiment besoin, et on accepte la création d'une unité, mais qui n'est pas une unité combattante.
D'accord.
Une unité disons, d'intendance, et voilà, ce qui s'appelle les corps de multiers. Mais Jean Botinsky insiste pour que le mot « Sion » fasse partie de la définition d'unité. On a appelé ça les corps des muletiers de Sion, ce qui voyageait sur des mules. Donc cette unité ensuite se transforma en un autre, elle va changer en 1917, elle va changer d'appellation, deviendra vraiment le bataillon juif, et participera notamment à une bataille importante qui se déroule à Gallipoli, qui est également dans l'Empire ottoman. Bien évidemment, cela donne une certaine légitimité pour Jabotinsky. Le fait d'avoir participé à la guerre donne au sionisme une légitimité politique. Et ça, pour lui, c'était son idée fondamentale. Il écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « La Turquie et la guerre », donc en même temps qu'il est dans l'armée, et donc il occupe des fonctions d'officier dans l'armée, il continue à écrire et à publier.
D'accord.
Donc il a toujours mené ces deux carrières, je dirais, en même temps. Il arrive avec un certain nombre des soldats qui ont participé à cette unité juive. Il arrive en Palestine à la fin de la Première Guerre mondiale.
D'accord.
Et essaye à ce moment-là de demander au ministre de la guerre britannique de remplir ses engagements, à savoir de maintenir l'existence de cette unité juive qui servirait au fond de groupe d'autodéfense. On en reparlera dans une autre émission sur l'autodéfense dans le Yishuv au moment après l'arrivée des Anglais. Mais son idée, c'est que ceux qui le désirent, ceux qui sont donc démobilisés, puissent continuer à servir dans l'armée britannique en Palestine.
D'accord.
Dans cette même unité juive. Mais bien évidemment, le ministre de la guerre ne souhaite pas maintenir l'existence de ce bataillon juif au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Et son désir, lui, c'est d'avoir un poids dans l'armée, et donc pour les Anglais, ou c'est déjà une arrière-pensée de commencer une sorte d'autodéfense pour les Juifs ?
Je pense que c'est les deux. Cela dit, objectivement, il y a relativement peu de ces soldats qui restent, qui ont le désir de rester en Palestine et de continuer à créer ou à fonder cette future organisation d'autodéfense juive. Jabotinsky y voit plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement de continuer à faire partie de l'armée britannique, puisque à cette époque-là, on pense encore, même si Jabotinsky commence déjà à avoir des doutes, on pense encore que les Anglais ont pour intention de créer un foyer juif. Donc, de ce point de vue-là, il se dit qu'il vaut mieux être dans l'armée et faire partie de cette armée britannique qui gère la Palestine ou qui va administrer la Palestine dans les années à venir. Le deuxième objectif de Jabotinsky, c'est de former des juifs au maniement des armes, parce que dans son idée, il n'y aura pas d'État juif s'il n'y a pas d'armée juive. Et donc il est nécessaire de redonner aux juifs aussi, non pas le goût des armes, mais disons l'esprit de ce que peut être un combattant, parce que pour lui, il n'y a pas d'État sans armée, il n'y a pas d'État sans le maintien de l'ordre, par la force, par la puissance. Et donc le développement de cette puissance ne peut se faire que si les juifs retrouvent le maniement des armes, ce qu'ils n'ont pas fait, puisque la plupart des Juifs, pendant très longtemps, n'étaient pas souvent mobilisés dans les armées, dans les pays dans lesquels ils vivaient. Donc, les Juifs n'ont pas fait beaucoup, il y a très peu de Juifs qui ont fait des carrières militaires. Et en général, ils étaient souvent, même lorsqu'ils étaient mobilisés dans les armées des pays en Europe, Il n'arrivait que très rarement à des postes gradés d'officier ou même d'officier d'état-major. Donc c'est extrêmement rare. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en avait parlé à propos de l'affaire Dreyfus, que l'affaire Dreyfus a été une affaire aussi importante, parce que c'était aussi la première fois qu'il y avait un juif qui était aussi haut gradé dans une armée. Mais en général, dans les armées, aussi bien en Russie qu'en Pologne, les juifs, lorsqu'ils étaient mobilisés, et la plupart des juifs n'étaient pas mobilisés, ils occupaient des fonctions assez subalternes. Donc, de ce point de vue-là, son idée, c'était de forger une armée juive, c'est-à-dire de redonner aux juifs l'esprit et la capacité à manier les armes.
D'accord.
Donc pour lui, c'était important. Et le troisième objectif, c'était, malgré tout, il y avait déjà eu des incidents, pas toujours des incidents à caractère politique, mais disons, il y avait la nécessité de défendre certains villages, certains kibboutzim, certains moshavim, certaines bourgades juives qui avaient été attaquées soit par des pillards, soit par des voleurs, soit par des gens qui, effectivement, s'opposaient au sionisme. Et donc, il y avait déjà eu des émeutes.
Mais encore une fois, aussi face à l'indifférence des Anglais aussi.
Oui, mais on sait que, effectivement, le besoin d'autodéfense se faisait sentir. On sentait venir. Donc, quelque part, Jabotinsky, qui avait déjà une vision du sionisme, je dirais, non pas cynique, mais en tout cas réaliste, pragmatique.
Moins idéaliste, peut-être.
Voilà, moins idéaliste, qui pensait parfaitement qu'il était, d'une certaine façon, l'opposition arabe était quelque chose de prévisible et normal. Donc, pour lui, on serait forcément, à un moment ou un autre, dans une situation de conflit, et donc il valait mieux avoir la force de se battre. Cela, c'est fondamental pour Jabotinsky, parce que dans son idée, la force n'est pas un moyen de résoudre, mais c'est une façon de dissuader l'adversaire. Et une fois que l'adversaire, cette dissuasion agit sur lui, on peut négocier. Ça, c'est la conception politique de Jabotinsky, qui est une conception réaliste de l'histoire. Et donc, par rapport à cela, il avait dès le départ eu cette idée qu'il fallait utiliser l'armée britannique pour se former.
D'accord.
Pour former des futurs soldats juifs. Alors, il a été aidé en cela par quelqu'un d'important. L'occasion, peut-être, on fera une émission sur lui, qui était Trumpeldor, qui était un officier qui avait servi dans l'armée russe et qui, lui, avait déjà une expérience de la guerre, puisqu'il avait participé à la guerre entre les Russes et les Japonais, 1905, qu'il avait perdu d'ailleurs un bras. Et donc, il était je dirais, plus au fait du maniement des armes que Jabotinsky. Et donc, avec ce petit groupe, une soixantaine d'officiers, ils se sont rendus en Palestine et ils ont été amenés très rapidement à intervenir dans des émeutes qui se sont déroulées dès les années 20. Et notamment, une émeute très importante qui s'est déroulée, on le pense aujourd'hui parce qu'on a les documents fomentés un petit peu et encouragés par les Anglais, pour empêcher les Juifs d'aller prier au Kotel, au mur des Lamentations, en 1920, et en avril, à un moment juste avant les fêtes de Pessah. Et donc, à ce moment-là, Jabotinsky a organisé un groupe d'autodéfense pour justement permettre à ces Juifs
d'aller prier.
Et il a été arrêté et condamné à 15 ans de prison par les Britanniques, justement pour avoir créé une organisation d'autodéfense illégale. Et donc, il a été emprisonné dans la Saint-Jean d'Acre.
D'accord.
Alors, évidemment, il n'a pas fait 15 ans de prison, puisqu'il a été gracié un petit peu plus tard. Mais au départ, effectivement, il a commencé à créer, cette vision d'un sionisme qui va s'imposer aussi par la force. Et donc, à partir de 1920, Jabotinsky comprend qu'il faut former des jeunes, non seulement au sionisme, non seulement à l'amour d'Israël, mais également
à la défense
et à l'autodéfense. Et donc, d'Acau, comme de Saint-Jean d'Acre, il écrit déjà certains textes qui vont amener plus tard la création du mouvement de jeunesse Beitar à partir des années 20. Il est libéré peu de temps après, sous la pression à la fois du mouvement sioniste, il est libéré, mais expulsé d'Eretz Israël. Et donc, à partir de 1920, il n'aura plus la possibilité de revenir en Eretz Israël. Il est expulsé et il va donc mener son activité
en dehors d'Israël.
Il va s'installer en France, notamment, et il va décider, il voyagera à travers toute l'Europe Et il créera, à la fin de 1921, le BETA, le mouvement de jeunesse, à Riga, donc dans les pays baltes, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est que le sionisme pourra se réaliser. Mais déjà, Jabotinsky comprend que s'il se réalise, ce sera dans un conflit qui ne sera pas seulement un conflit contre les Arabes, mais aussi contre les Anglais.
Nous allons refaire une petite pause musicale et on vous retrouve juste après.
Al tagidi ken, ve al tagidi lo, al techapsi et hasof. He anan boche, el hayam soche. יש אונייה על החוף אונייה קטנה וארץ ישנה לנו שם באופק מחכה יש שם פרפרים ושלג בהרים פרחים יפים סבורים כמו נשיקה אל תגידי כן ואל תגידי לא ים מדבר בלי מילים אלמוגים יפים ושלושה שרפים עפים מעל הגלים גם אם נחפש בכל נמל קטן ובים נפליג כל השנה בתוך ים שנינו נשאר כי לאהבה אין מדינה
Donc début des années 20, Jabotinsky est expulsé d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Alors il comprend que le conflit est un conflit à la fois contre la population arabe qui va s'opposer, on va y revenir, et aussi une opposition au pouvoir britannique colonial qui se comporte au fond comme une puissance dominante et qui ne considère, d'après lui, comprend que les Anglais n'ont pas l'intention d'appliquer les objectifs prévus par le mandat.
D'accord.
Et donc la première preuve, c'est les premiers livres, c'est le premier livre blanc. Et donc il essaye de convaincre au sein de l'organisation sioniste, les membres, la direction, d'avoir une politique, je dirais, plus agressive à l'égard de l'Empire britannique. Mais évidemment, il n'est pas suivi parce qu'il y a encore des gens comme Weizmann et d'autres qui considèrent que même si la politique britannique n'est pas tout à fait ce que l'on espérait, malgré tout, ils sont nos alliés et nous ne pouvons pas aller contre l'Empire britannique.
Mmh.
Donc, il y a vraiment une discussion assez dure au sein du mouvement sioniste qui... dans un premier temps, comme je l'ai dit, Jabotinsky va créer le BETA, qui est un mouvement de jeunesse, dans un tout autre esprit que les autres mouvements de jeunesse haloutsiques, avec l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de réaliser le sionisme en créant des kibboutzim, mais qu'il faut également apprendre à se battre, apprendre à se former à cette idée que l'État est la première priorité, avant toute autre chose, et qu'il faut être prêt à payer le prix cela. Donc, il va organiser aussi, dès le départ, à la fin des années 20, commencer à organiser l'immigration clandestine, ce qu'on appelait la liabette, ce que faisaient aussi d'autres, je dirais, d'autres mouvements au sein du mouvement sioniste, Mais à partir de 1923 et ensuite après 1925, il se rend compte qu'il ne peut pas rester dans l'organisation sioniste puisqu'il ne partage plus les idées ni la stratégie politique de cette organisation. Et donc il va créer ce qu'on appelle la nouvelle organisation sioniste qui a ensuite été désignée par le nom de sioniste révisionniste puisqu'il s'opposait, il voulait réviser la ligne défendue par cette organisation sioniste.
De quelle manière ?
Alors, pour lui, il s'agissait bien évidemment de préparer une révolte, de préparer une indépendance et un mouvement d'indépendance qui serait, à un moment ou un autre, un mouvement d'indépendance qui allait préparer une révolte contre les Anglais, une révolte qui pourrait devenir armée aussi. Mmh. Et donc, il dit, voilà, il ne se suit pas seulement, bien évidemment, de faire de l'immigration clandestine, mais à un moment ou un autre, de manière totalement objective, nous serons amenés à nous battre contre les Anglais, puisqu'ils n'accepteront pas le sionisme si nous ne sommes pas prêts à mourir pour cette cause.
D'accord.
Alors, évidemment, tout ça a créé des dissensions au sein du mouvement sioniste. Le sionisme révisionniste n'est pas majoritaire, ni en Eretz Israël, ni même en diaspora, donc il est un petit peu ostracisé, on le met de côté. Les discussions sont assez violentes, il faut aussi voir qu'en Europe, c'est le début des premiers mouvements à caractère fasciste. Donc on accuse Jabotinsky, qui avait des idées, notamment en économie, des idées totalement libérales, on l'accuse de vouloir créer un mouvement nationaliste à caractère fasciste. Mmh. Donc les accusations sont extrêmement dures. Il y a des phrases de Ben-Gourion encore une fois, rétrospectivement, ça semble terrible, mais voilà, qui le compare à Mussolini, après à Hitler dans les années 30. Donc on dit, voilà, c'est un mouvement fasciste parce que, à partir du moment où on prône l'utilisation de la force et où on dit et c'est important de mettre le sentiment national en priorité, on fait une espèce de raccourci un peu bizarre entre le mouvement national juif révisionniste et les partis d'extrême droite qui montent en Europe. Bon, ce sont des rapprochements qui sont historiquement pas du tout adaptés, puisque la conception de Jabotinsky, notamment en matière économique, parce que Jabotinsky, dans un de ses textes, explique qu'il a vraiment une vision de la société qui est une vision de justice sociale. Mais il dit, ça n'est pas à moi de l'appliquer. Voilà ce que moi je pense. Après, ce seront les citoyens qui décideront démocratiquement. Donc, toujours respectueux de la démocratie. Donc, il n'y a jamais eu de rejet de la démocratie chez Jabotinsky.
Mais
et notamment, il y a une
tout,
théorie c'est... économique, qu'il appelle ça la théorie des cinq mêmes en hébreu.
D'accord.
Hein, donc, ces cinq mêmes, c'est... En fait, il dit, voilà, ce sont cinq besoins fondamentaux que la société ou qu'un État doit fournir à tous ses citoyens. Donc en hébreu, c'est le premier, c'est mazon, donc la nourriture. Le deuxième, c'est maon, c'est-à-dire une demeure, un toit. Le troisième, c'est malbouche, l'habit. Hein. Le quatrième, c'est moré, c'est l'éducation. Et la cinquième, c'est marpé, c'est-à-dire merapé, c'est la médecine, la
D'accord.
santé. Donc il dit, voilà, ma vision économique, elle est fondée sur toute société doit avant tout assurer ses cinq besoins fondamentaux. Donc il y a une vision sociale dans son sionisme, mais encore une fois, qu'il n'est pas une vision qu'il pense imposer. Il dit, il faut que, c'est de façon démocratique, la société qui se créera, l'État qui se créera, devra décider de ses institutions. Sur le plan pratique, les émeutes, à partir de 1929, sont de plus en plus durs avec les Arabes, notamment après le massacre des Juifs de Hébron de 1929. Et là, ils décident de créer une véritable organisation de combat clandestine. Alors au départ, il y avait déjà une organisation qui existait qui s'appelait la Haganah. Donc ils créent ce qu'on appelle la Haganah Bet, donc là, une Haganah un peu plus clandestine, qui décide de mener à l'égard des opposants arabes et par la suite, plus tard, contre les Anglais, des opérations non seulement d'autodéfense, mais également des opérations offensives.
D'accord.
Et donc, il crée une véritable organisation, je dirais, de résistance clandestine, qui ensuite prendra le nom de l'Irgun. Irgun Tzva'i Leumi, c'est-à-dire l'organisation militaire nationale. Ça se crée au début 1931, à peu près, et puis ça se transforme petit à petit jusqu'à devenir l'Irgun Tzva'i Leumi quelques années plus tard. Jabotinsky a toujours considéré les relations politiques étaient des relations qui se fondaient sur des rapports de force. Ce qui est, au fond, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui moderne, c'est des relations de puissance à puissance. Et donc, dans notre relation avec les Arabes, qu'on ne considérait pas du tout les Arabes, contrairement à ce qu'on dit parfois sur la droite israélienne aujourd'hui, mais c'est tout à fait différent, qu'on ne considérait pas du tout les Arabes comme des sous-hommes, ni comme des hommes, des personnes inférieures. Au contraire, il disait, ils ont exactement la même vision que nous, et eux considèrent que nous leur prenons leur maison. Et contre ce sentiment-là, on ne peut rien faire. Il dit maintenant, la réalité politique, c'est qu'il y a 21 États arabes, et que les Arabes ont... La grande Oumma arabe ne tient pas sur la Palestine, et que même en Palestine, dans le début du XXe siècle, il y avait relativement peu d'Arabes qui étaient présents. Il dit, toutes ces explications historiques et toutes ces justifications sur « nous sommes là avant, nous sommes là après », tout ça n'a aucun sens. Le seul message que les peuples comprennent, c'est le message de la force. Et donc, il crée une théorie, si on peut dire, qu'on appelle la théorie de la muraille de fer. Mmh. Et la muraille de fer, cela veut dire, au fond, si nous sommes capables de créer une muraille de fer, c'est-à-dire une muraille qui est imprenable, et le jour où les Arabes comprendront qu'ils ne peuvent pas détruire l'État d'Israël, eh bien, ils accepteront notre existence, et à ce moment-là, le jour où ils ont renoncé à nous détruire, eh bien, nous pourrons leur donner tous les droits civiques, et il envisageait d'ailleurs même de leur donner la possibilité d'avoir des responsabilités politiques, à condition qu'ils renoncent à cette volonté de détruire l'État d'Israël. Mmh. Et donc, ce texte est un texte, je dirais, fondamental, parce qu'il explique parfaitement l'idée de Jabotinsky de la muraille de fer. Je crois que tu vas nous en lire un petit extrait.
Mon intention n'est pas de dire qu'un accord quelconque avec les Arabes palestiniens est absolument hors de question. Tant que subsiste dans l'esprit des Arabes la moindre étincelle d'espoir qu'ils pourront un jour se défaire de nous, nulle bonne parole, nulle promesse attirante n'amènera les Arabes à renoncer à cet espoir, précisément parce qu'ils ne sont pas une population vile, mais une nation bien vivante. Or, une nation vivante n'est disposée à faire des concessions sur des questions aussi vitales que lorsqu'elle a perdu tout espoir de se défaire de nous et que toute brèche de la muraille de fer est définitivement colmatée. Ce n'est qu'alors que les groupements extrémistes et leur slogan « jamais au grand jamais » perdront leur influence. Alors seulement, ils céderont la place à des groupes plus modérés. Alors seulement, ces derniers pourront faire entendre leur voix et proposer des concessions mutuelles. C'est à ce moment-là qu'ils commenceront à négocier avec nous sur les questions pratiques telles que les garanties contre l'expulsion des Arabes et pour l'égalité des droits civils et politiques. Mon espérance et ma foi est que nous leur accorderons alors des garanties satisfaisantes et que les deux peuples pourront vivre en bon voisinage. Toutefois, la seule voie qui puisse nous mener à un tel accord est celle de la muraille de fer, c'est-à-dire l'existence d'une force en Palestine qui ne soit influencée d'aucune façon par les pressions des Arabes. Autrement dit, le seul moyen d'arriver à un accord futur est le renoncement à la tentative d'arriver à un accord aujourd'hui.
Oui, donc quelque part, Jabotinsky a été celui qui a le mieux perçu ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-arabe. Et donc, d'une certaine façon, il a très tôt compris que le conflit qui nous oppose aux Arabes n'est pas seulement, je dirais, un conflit social, et qu'en leur donnant, par exemple, une certaine prospérité, on allait résoudre le problème, ou peut-être en leur promettant toutes sortes de choses dans quelques matières économiques, on pourrait résoudre la situation. Ce que pensaient beaucoup les sionistes socialistes, qui disaient, voilà, on va amener le progrès, donc les Arabes vont aimer cette amélioration de leur niveau de vie, et donc ils vont devenir sionistes. Mmh. Et donc, Jabotinsky, dès le début, a toujours pensé, vous rêvez, les Arabes ne vont pas devenir sionistes, ils ne vont pas nous aimer, Ils n'accepteront notre existence et notre présence ici que lorsqu'ils seront convaincus qu'ils n'ont pas la possibilité de nous détruire. Mmh. Et si on regarde l'histoire du sionisme, au fond, l'État d'Israël s'est comporté, et se comporte encore, d'une façon, je dirais, jabotinskienne. C'est-à-dire qu'à quel moment l'Égypte est venue faire la paix avec Israël, lorsqu'elle est arrivée au terme de plusieurs guerres qu'elle a perdues, à la conclusion qu'il n'était plus possible de détruire l'État d'Israël, qu'ils n'en avaient plus les moyens, que ça leur coûtait trop cher, en hommes non seulement en pertes humaines, mais également en pertes économiques et sociales, et donc qu'il fallait accepter. Alors encore une fois, ils n'ont pas accepté ni le droit des Juifs, ni par amour, mais ils l'ont accepté uniquement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mmh. Et c'est cette muraille de fer qu'est aujourd'hui Tsahal, c'est cette muraille de fer que représente la force de la société israélienne qui nous protège et qui amènera un jour ou l'autre les Arabes à vouloir faire la paix avec Israël. Mmh. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, je pense qu'il avait une... C'est peut-être le dirigeant sioniste qui a eu la meilleure intuition de ce qu'est le conflit israélo-arabe. Au fond, les Arabes veulent la même chose que nous. Ils veulent une maison et ils considèrent que cette maison est à eux. Et cette idée est dans leur tête. On ne peut pas leur enlever cette idée avec des beaux discours et ni même avec, je dirais, une prospérité économique ou autre. Il faut qu'ils comprennent, et ils ne le comprendront que lorsqu'ils seront arrivés à la conclusion, par la force, qu'ils n'ont pas la possibilité de détruire cette muraille de fer parce qu'elle est trop puissante, parce qu'elle est trop forte. De ce point de vue-là, l'histoire a donné raison à Jabotinsky. L'histoire a donné raison à Jabotinsky, et même Ben-Gurion, qui était opposé totalement à Jabotinsky, et qui l'insultait régulièrement dans tous ses discours, et qui a toujours refusé, comme je l'ai dit au début, de faire enterrer Jabotinsky, qui est mort d'une crise cardiaque en 1940 à New York, de faire transférer ses restes en Israël. Et bien Jabotinsky, finalement, Ben-Gurion a adopté la pensée de Jabotinsky, il a créé Tsahal, et il a dit, finalement, il faut avoir une armée puissante, parce que c'est grâce à cette armée que nous aurons la paix. Mm-hmm. De ce point de vue-là, je pense qu'il a eu la véritable intuition, et l'a véritablement compris. Et puis aussi, cette vision... de l'égalité profonde entre les Juifs et les Arabes. Parce que dans le sionisme socialiste, parfois, il y avait une espèce de condescendance, une espèce de complexe de supériorité. On considérait quelquefois l'Arabe, le petit paysan en train de cultiver ses oliviers, etc., alors que nous venons de la culture européenne. Donc Jabotinsky n'avait absolument pas cette conception-là. Il disait, les Arabes sont exactement, ils pensent exactement comme nous. Ils ont les mêmes besoins, ils ont le même sentiment d'appartenance. Et donc, c'est cela qui fait la difficulté du conflit. Mais si on regarde l'histoire de tous les conflits dans le monde, eh bien, on voit que ces conflits n'ont été résolus justement que lorsque la force s'est imposée dans un camp ou dans l'autre. Voilà. Et Jabotinsky a eu un destin un peu curieux, parce que même dans son camp, à un certain moment, au moment où l'Irgun, il était le chef suprême de l'Irgun, mais comme il n'était pas en Eretz Israël, et bien sur certaines actions, il n'a pas eu le temps de donner son avis. Le dernier projet, et ça je crois que c'est important, c'est quand dès 1939, il a eu l'intuition qu'il allait se passer quelque chose, une grande catastrophe. Et il faisait des discours à travers toute la Pologne en disant « il faut évacuer ». Et son dernier projet, ça a été l'évacuation, ce qu'on a appelé. Il a essayé d'organiser un débarquement massif de Juifs en Palestine, qui a malheureusement échoué. Mais ses derniers discours, en 1939, encore en Pologne, c'était de dire aux Juifs, apprenez à tirer et évacuez la Pologne, parce qu'une grande catastrophe va s'annoncer. De ce point de vue-là, il avait cette vision prophétique. Et il était malade du cœur, il ne le savait pas, et il est mort subitement d'une crise cardiaque en 1940, début de la guerre.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs, et je vous dis à très bientôt.